et sur nous chaque jour, Seigneur. Oui, c'est vrai, malgré les épreuves, les soucis, les difficultés, tu es toujours là avec nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie.
Amen.
Merci, Jésus-Christ, parce que nos chemins sont déjà tracés dans tes mains. Et Seigneur, c'est toi qui conduis nos vies, qui dirige nos vies. Si nous prenons un chemin escarpé, toi, tu nous ramènes vers le droit chemin. Parce que ta main est sur nous, qui nous conduit chaque jour. Chaque jour, Père éternel, de tout les temps, je veux te louer, t'adorer, t'honorer, parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne, tu es trois fois saint. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et Jésus-Christ, oui, c'est vrai, nous attendons ton divin retour le jour où tu vas nous chercher pour aller dans ton ciel de gloire. Je te bénis, je te loue, je t'honore et je te rends grâce encore. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, à toi seul, ô notre Dieu, qu'il en soit toute la gloire. Amen.
Amen, amen. En attendant les prières qui se sont élevées tout au long de ce culte, je pense qu'on est dans des temps particuliers. On dit souvent, quand tout est renversé, le juste, que fera-t-il? Et le juste, il fera ce qui a été fait ce matin. Dire, Seigneur, je proclame que je t'appartiens, que mes destinées sont dans ta main, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes, les courants de pensée, les choses auxquelles on ne comprend plus rien, dans ce monde qui va dans tous les sens. Seigneur, toi tu ne changes pas. Tu es le Père des Lumières, dans lequel il n'y a aucune ombre de variation. Mes destinées, nos destinées, les destinées de ceux qui craignent l'Éternel, de ceux qui se confient en lui, au cœur de la détresse, sont dans la main du Seigneur. Amen. Amen. Jean-Luc, je suis sûr que tu vas nous confirmer ça, je ne sais pas comment. Ah oui, alors, pardon, il y a la garderie, les enfants, allez à la garderie. C'est, pour certains, c'est une séance spéciale aussi. Alors, accompagnez les enfants. Pour certains, je crois qu'on va vous demander l'année de naissance même, alors. Ça rigole plus maintenant. Voilà.
1959.
C'est impressionnant. Vous savez que ces derniers dimanches, il y avait entre 22 et 29 enfants à la garderie. Priez pour cela, priez pour les équipes des clubs bibliques aussi, il va y avoir des transferts. Priez pour ça, vraiment. Mais c'est encourageant, hein. C'est encourageant, une église commence à avoir plein d'enfants comme ça, c'est le renouvellement, hein. Bon, on va prier, ça va se décanter.
Ouais. Amen.
Merci. Ah, oh, Seigneur, nous te bénissons. Quelle joie, Seigneur. C'est là notre joie, Seigneur, de savoir ces choses, et c'est là notre joie aussi de te servir. Je te remets Jean-Luc, mon frère, Seigneur, dans le service, Seigneur, de la parole, de la prédication, Seigneur. Seigneur, tu connais les faiblesses de tes serviteurs, mais toi, tu es fort. Et c'est par ta puissance, Seigneur, que ces choses peuvent être annoncées. Je te prie que l'esprit de vérité repose sur Jean-Luc maintenant. Cet esprit aussi de force, d'amour et de sagesse qui sont en toi, Seigneur, que nous n'avons pas, mais que nous avons en toi, Seigneur, parce que tu nous as mis en toi, dans ton corps. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'être la tête de nos vies. Amen.
Amen. Bonjour à tous. J'ai dit bonjour à tous. Ah, vous êtes là. Il y avait 10 qui avaient répondu, là. Vous allez bien? Alors, ce matin, j'ai pris une bouteille. Je ne sais pas si c'est prophétique. Alors, c'est mis impliqué, réveille ton volcan. Bon, je ne l'avais pas vu avant. C'est que le Seigneur nous réveille, que le Seigneur nous enflamme pour lui. Et le titre de mon message, c'est « En Jésus-Christ ». En Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous le connaissez, en Jésus-Christ. Donc, on en a parlé déjà à travers du chant, à travers la parole qui a été lue. Ce terme « en Jésus-Christ » revient souvent dans la parole. Et c'est pour, à nouveau, qu'on centre notre vie, qu'on centre uniquement notre vie sur Jésus-Christ, sur ce qui s'est passé à la croix. Il est mort pour nous, pour notre état de pécheur, foutu des cheveux jusqu'aux pieds, rien à en retirer, mais ressuscité pour nous donner la vie, pour nous justifier. Nous en étions incapables. Et donc, en Jésus-Christ, c'est quelque part de quoi nous sommes faits, en qui nous sommes. Si on avait, sur notre front, ou composition du produit, tant de pourcents de ceci, tant de pourcents de cela. Je vous ai mis un paquet de galettes bretonnes, pur beurre. Souvent, je dis ça, breton, pur beurre, parce que mes ancêtres sont tous bretons, enfin ceux que j'ai connus en tout cas. Mais pur beurre, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Enfin, si la matière grasse, c'est que du beurre, mais ce n'est pas 100% de beurre, sans ça, ce ne serait pas des gâteaux, ce serait du beurre. Mais quand même, le peu de... Enfin, il y a 25% de beurre dans ces produits-là, ça donne un goût, un arôme. Et en Jésus-Christ, plus il y a de Jésus-Christ en nous, et bien plus il y a cet arôme qui vient du ciel en nous. Amen. Et donc, je vais vous rappeler beaucoup de choses, hein, aujourd'hui, et beaucoup de versets que vous connaissez. Mais pour moi, c'est une bonne nourriture. Alors, de quoi nous sommes faits? Ben ouais, on est fait de 65% d'eau. On est liquide. Bon. On est liquide, c'est... Il y a un problème, Givork? Non? C'est bon. On est donc constitué à 65% d'eau. Bon, peut-être un petit peu plus suivant l'âge. Mais en tout cas, on peut retenir ce chiffre-là. Et autrement, nous avons des sels minéraux en nous. Et 98,5% de la masse du corps humain sont représentés par seulement 6 éléments. L'oxygène, le carbone, l'hydrogène, l'azote, le calcium et le phosphore. Les autres sont en petite, très très petite quantité et très importants aussi, hein. Mais au final, tous ces petits éléments chimiques, vous ne voyez peut-être pas bien, mais je suis désolé de vous l'apprendre, vous valez que 8,95 €. On assemble tous ces éléments chimiques ensemble, on va les vendre, et ben, ça ne vaut que 8,95 €. Peut-être un peu plus pour certains qui sont plus costauds que moi. Mais bon... Donc si c'était ça notre vie, c'est pas terrible, hein. D'accord ? Mais ça nous parle de quelque chose aussi. C'est que ces éléments minéraux viennent du sol. Et la parole de Dieu nous dit, en Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. De la poussière du sol. Donc la Bible dit la vérité. Il a fallu un certain temps pour que bien sûr, les scientifiques trouvent ça, enfin, ou admettent ça, mais on vient du sol. Et donc, et comme une plante qui va se nourrir du sol, et ben, notre alimentation, elle est son origine et dans le sol aussi, quoi. Mais est-ce que c'est ça notre vie seulement? Vous êtes plus que des légumes? Bon, si vous ne me répondez pas, je vais dire, ben ouais, à 98% aussi, sont un peu légumifiés ce matin-là. Mais il y a plus, hein. Donc, quand on continue donc à lire ce verset, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol Il insuffla dans ses narines un souffle vital, un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le souffle de Dieu est en nous. Et ce souffle, c'est l'animation que Dieu met en nous, c'est son esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Avant tout, nous sommes des êtres spirituels. Dans la glace, vous voyez que votre corps, mais le Seigneur, lui, voit votre esprit. Amen. Et Genèse 1:26 nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Et donc cette créature merveilleuse que nous sommes, des êtres spirituels à la ressemblance de Dieu, nous avons le cœur de Dieu en nous. Et nous sommes l'objet de son amour, sans aucun partage. Mais bien sûr, notre esprit, jusqu'à naître de nouveau, était tout rabougri, sans vie, parce qu'il n'y avait pas la vie de Dieu. Il a créé notre esprit, mais le souffle du Saint-Esprit n'était pas en nous. Et Jean 3:16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez ce verset par cœur, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas avec un esprit rabougri, mais qu'il ait un esprit rempli de la vie du Seigneur, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc l'homme a besoin de quoi? Bien sûr de cette nourriture qui vient du sol, mais l'homme et la femme a besoin d'être en Jésus-Christ, et de recevoir cette nourriture pour ne pas rester sous-alimenté, et de recevoir bien sûr l'Esprit Saint et la parole de Dieu qui est inépuisable pour nous nourrir. Et nous verrons plus tard, et tout au long d'ailleurs de ce message, la parole est une nourriture pour nous et nous devons la désirer. Et nous ne pouvons vivre que par elle et par l'Esprit Saint qui la rend vivante, qui transforme ses paroles en vie pour nous. Mais c'est vrai que si votre nourriture spirituelle, je suis désolé de vous le dire, mais si seulement les feuillets de la méditation quotidienne, de la bonne semence, très bonne qualité, je suis désolé de vous dire, là vous arrêtez au biscuit apéritif. Là. On a besoin de plus. On a besoin de rentrer dans la parole de Dieu qui est vivante et qui est là pour nous instruire. Et je sais que ce n'est pas toujours facile et évident, et nous prierons pour ça tout à l'heure. Mais la vraie nourriture, elle vient de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint qui l'a fait grandir en nous. Et on a des expressions qui nous illustrent des choses pratiques, et on dit par exemple, heureux comme un poisson dans l'eau, ça vous le savez. Eh bien nous sommes faits pour Dieu, puisqu'il a mis en nous son esprit, nous sommes faits à son image, nous sommes faits pour Dieu. Et nous pourrions dire, heureux comme un homme ou une femme qui est en Christ. Amen. Et aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de l'âme, mais elle existe bien. Donc le Seigneur a désiré pour nous une nouvelle alliance qui crée en nous une nouvelle nature. Donc Ézéchiel 36:26, que des versets connus ce matin. pas de problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas seulement qu'il soit connu dans la tête, mais qu'il descende dans notre cœur et qu'il donne vie. Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Ça, c'est de l'application. Le Seigneur ne se contente pas de nous annoncer une parole. Elle est pratique, cette parole. Il veut qu'elle s'accomplisse pour devenir des disciples. Et un disciple, j'ai cherché ce que c'était. Donc là, vous allez bien deviner que ce n'est pas de moi. Donc en grec, Christianos. Donc je n'ai pas commencé les cours de grec. Et dérivé, donc Christianos, du mot Christos, celui qui est oint, et avec une fin adjectivale, s'il vous plaît, empruntée au latin, qui signifie adhérer ou faire partie d'eux. Un disciple, il adhère ou il fait partie d'eux. Vous vous rendez compte de la proximité que nous devons avoir avec le Christ. Adhérer à son cœur, faire partie de lui. Et bien sûr, c'est à Antioche que le mot chrétien est donc qui a été utilisé pour la première fois et donné d'ailleurs par des païens, a été donné et donc qui qualifiait ses disciples. Donc être disciple, c'est plus que d'être sauvé et avoir sa place au ciel. On n'est pas dans une situation d'attente. Disciple, c'est celui qui suit Christ avec une conviction intérieure, tellement profonde que ça se voit à l'extérieur. Ce parfum qui se dégage, cette saveur qui se dégage. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai. Ça, c'est l'engagement de Dieu. Est-ce que Dieu est fidèle ? Je ferai, pas nous ferons, lui, il fera. Je ferai que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Amen. Par sa volonté. Dieu n'est-il pas tout puissant pour que sa parole s'applique en nous? Donc après, je voudrais vous lire le passage de Jean 4, 30. Ils sortirent de la ville et vinrent près de lui. Donc c'est après le passage de la rencontre avec la Samaritaine, donc où Jésus rencontre la Samaritaine, une histoire extraordinaire. Et donc les disciples étaient partis chercher de la nourriture. Il était temps de manger. Et donc ils revinrent, quoi. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Ça nous parle d'une autre sorte de nourriture, une nourriture qui n'est pas pour notre corps, mais qui est pour notre cœur. Une nourriture qui vient du ciel. Et donc les disciples ne connaissent pas encore ce pain. Ils sont enseignés, mais ils ne sont pas encore rentrés dans cette dimension. Mais cette nourriture, elle coûte aussi, elle coûte notre volonté. C'est ce que Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté. Il y a un moment donné, notre volonté doit plier. On est devant un mur, on dit, Seigneur, je vais avancer, je vois plus ce qu'il y a derrière. Je suis découragé, je veux avancer. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le lâcher prise, c'est dire, j'abandonne tout. Et j'abandonne tout au pied de la croix, là où tout a été accompli, où la question a été réglée. Et d'abandonner notre volonté, souvent ça coûte. Mais c'est le passage obligé. Et Jésus l'a fait lui-même pour lui. Alors on passe ensuite à ce qu'on appelle la métanoïa. C'est-à-dire, j'ai puisé dans le grec ce matin, mais qui est un mot connu, et donc qui veut dire changement de vue et renversement de la pensée. Donc c'est-à-dire, je voyais les choses d'une façon, je ne les vois plus de la même façon. Ayant rencontré Jésus, il a changé le schéma intérieur qui était dans mon cœur. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a changé ma vue. Il a renversé mes pensées. Et ça, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de la croix. Et nous sommes peut-être passés d'une liste religieuse de « il faut pas, je peux pas, fais pas ci, fais pas ça ». Donc avec des interdits, nous sommes passés à un changement de cœur. Ésaïe 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau ». Amen. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ces paroles sont pour nous. Et plus besoin des masques. Comme Adam et Ève qui s'étant connus, s'étant vus pécheurs, se sont fait un habit de fortune. Mais nous pouvons nous faire des masques de fortune et paraître avec ce masque, pensant nous protéger. Mais Dieu ne guérit pas les masques. Dieu guérit les cœurs. Donc à un moment donné, c'est sûr, notre volonté doit céder, notre masque doit tomber pour que le Seigneur puisse venir, intervenir dans notre cœur. Alors ensuite, Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été un précepteur ou un pédagogue, un tuteur, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et vous, si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça nous donne notre nouvelle posture, si vous voulez. Nous sommes enfants de Dieu, des fils et des filles. Tout ça, ça s'est passé à la croix. N'oubliez jamais que ça s'est passé à la croix. N'oubliez jamais que le centre de notre vie, c'est Jésus-Christ. On peut apprendre de belles choses autrement, mais là, tout a basculé en Jésus-Christ. Mais avant Galates 3, que je viens de vous lire, il y a aussi Galates 2. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ce verset qui m'a touché il y a quelques années, c'est comment nos yeux spirituels ont besoin de s'ouvrir. Parce que le verset, on peut le lire rapidement, mais j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire que je suis mort à quelque chose. Mort à la chair, avec Jésus-Christ. Moi, je n'étais pas capable de mourir, mais Christ est mort pour moi. Et ce n'est plus moi qui vis. Donc c'est un abandon de ce désir de notre chair, de toujours dire « Mais moi, je suis là, mais moi, je connais, mais moi, je veux faire. » Laissons le Saint-Esprit nous parler. Laissons la parole de Dieu nous parler, nous enseigner, changer notre vie. Et c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi au Fils de Dieu, de ce qu'il a accompli, des promesses qu'il a pour nous, des paroles qu'il a pour nous, de la nourriture qu'il a pour chacun d'entre nous, chaque jour. Mon humanité de pécheur, née d'une semence corruptible, un pécheur qui naît de pécheur et qui donne la vie à d'autres pécheurs. Nous avons besoin de Christ. Cette nature de pécheur corrompu, Christ l'a portée pour moi sur le bois de la croix, une fois pour toutes. Et Ésaïe 53 nous annonçait ça au verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris et sauvés. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Amen. Et le verset 11 qui nous dit: après les tourments de son âme, donc là où il est parlé de Jésus, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est accompli. Amen, Seigneur. Pierre 1, 23. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Maintenant, mon regard, mon espérance, ma foi est en Christ et plus dans l'homme corrompu. Ma vie présente dans la chair, je le répète, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Donc ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vais à l'église, ce n'est plus moi qui vais ici ou là, qui vais au travail, qui va à l'université, mais Christ en moi. Amen, Seigneur. Donc il s'est produit un changement de nature. C'est la diapo suivante. Merci. C'est vrai que moi j'arrive avec ma clé et puis voilà, tout est bien sur la clé. Mais il faut que quelqu'un me seconde. Merci Prisca de le faire si gentiment. Et puis Judith n'endort pas. Donc vous non plus ne vous endormez pas, hein. Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Et là, c'est le verbe être qui est utilisé. Et pour l'instant, il n'est pas question de faire d'une action, mais c'est d'être. On peut traduire, je suis en mon Père, vous êtes en moi, moi je suis en vous. Ce sont les paroles de Dieu, hein. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Et être d'abord, ça nous parle aussi d'une constitution. Ça nous marque ce qu'il y a sur l'étiquette. Il est en quoi cet homme-là? Il est en Jésus-Christ, alléluia. Bon, le pourcentage est évolutif, on va dire, pour chacun d'entre nous. Et il y a une différence, ça fait une différence. Et ça me faisait penser à un bois vermoulu et un bois massif. Un bois qui a été attaqué par un parasite, vous tapez dessus, ça sonne creux. Mais un bois qui est sain, ça sonne ferme. Ce n'est pas le même son. Et l'autre jour, dans le métro, il y a une femme qui a été déséquilibrée et qui me marche sur le pied. J'ai des petites chaussures comme ça, là. Bon, ça fait mal. Bon, ça n'a pas fait le même bruit que ça pouvait faire il y a plus de 20 ans. Et voilà, ça ne fait pas le même bruit, quoi. Ce qui est en nous, Jésus-Christ, produit autre chose. Chasse les parasites qui pouvaient y être. Nous remplit de sa vie. Et quand on vient nous toucher, ça ne fait plus le même bruit. Faites le test tout à l'heure à la sortie. Je ne voudrais pas que vous le fassiez maintenant. Mais c'est ce qui se passe dans nos vies. Heureusement, ce n'est pas le même bruit qui sort de notre bouche. Et donc, dans ce verset, il est parlé de « vous connaîtrez ». En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en lui. Et connaître, c'est une connaissance du cœur, c'est rechercher, à savoir qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, à connaître qui est la vérité, où est la vérité. Et il y a une proximité entre adorer et connaître. Et dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est un duo, adorer et connaître. Plus j'adore, plus je veux chercher à connaître. Plus je connais, plus je vais chercher à adorer. Parce que adorer en esprit et en vérité, ça suppose de connaître. Et la parole vivante, donc la traduction de Jean 4, 24, nous dit « Dieu est un être spirituel. Il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. » Il y a aussi Éphésiens 3, 17 qui nous dit « Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Amen, ça c'est notre désir. Et bien sûr, l'obéissance, je vous rappelle, c'est vraiment une porte d'entrée, quoi. À un moment donné, ça passe par une capitulation. 1 Jean 3, 24 nous dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Demeurer. Que la parole de Dieu demeure en nous, que son Esprit demeure en nous. Colossiens 1, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Le Seigneur a voulu que nous, loin de tout, nous puissions le connaître. C'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La porte est ouverte. Le mystère glorieux de Christ en vous. Oui, c'est un mystère. C'est un mystère. Mais quand nous le vivons, quand ça ne fait plus le même bruit, quand ça sort de notre bouche, nous savons qu'il s'est passé quelque chose. Et ce Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, de qui nous pouvons maintenant nous approcher. Avant, c'était impossible. Je pense à l'histoire de Martin Luther. J'ai lu ça dernièrement. Il avait toujours ce poids sur son cœur d'être coupable. Le mot justice lui faisait peur. Il a reçu à un moment donné, enfin, c'est vraiment à travers exposition qui ira sur les 500 ans du protestantisme. C'est vraiment important d'aller lire les histoires de pareils hommes. Il avait reçu « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Et à un moment donné, bien sûr, ce verset s'est éclairé. Et c'est là que ça a été un nouvel appel pour lui. Donc voilà, le Seigneur nous a ouvert la porte qui mène à cette relation. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Avant, il y avait une seule personne qui pouvait. Une seule personne, un sacrificateur, après de multiples sacrifices, et à la fois pour lui, pour le peuple, qui pouvait approcher, qui pouvait passer ce voile et rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le voile est déchiré pour que chacun d'entre nous n'ont pas un moment, une fois tous les 15 ans, mais chaque jour, le voile est déchiré. Chaque jour, la porte est ouverte. Chaque jour, le Seigneur nous attend. Pour nous dévoiler tous ces mystères qui sont en Jésus-Christ. Donc, diapo suivante, Prisca, s'il te plaît. Et donc, dévoilant les mystères de Christ. Et je vous ai pris un certain nombre de versets que vous connaissez, certainement, mais ils sont partout. Mon cœur, à travers cette exhortation, c'est qu'à chaque fois maintenant, que vous rencontriez ce terme « en Jésus-Christ ». En Jésus-Christ. Que la porte s'ouvre. Donc le Seigneur a voulu nous faire nous dévoiler ses pensées. Philippiens 2:5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Ensuite, sa réconciliation. Éphésiens 2:13. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Sa grâce maintenant, Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Son chemin, Colossiens 2:6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Sa filiation, Galates 3:26, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Sa providence, Philippiens 4:19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Sa justice, Romains 3:22, justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Sa paix, Philippiens 4:7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Son œuvre pour ses œuvres, Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Son amour, Romains 8:39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La plus belle des places, Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La vraie liberté, Romains 8:2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. 1 Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Et pour finir, notre reconnaissance, 1 Thessaloniciens 5:18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ne restez pas à la porte. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous n'avons pas d'autre perfection à apporter à Dieu que les perfections que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pourriez apporter de cette terre au Seigneur, si ce n'est ce que le Seigneur lui-même, par son esprit, met en nous. Les perfections de Christ, nous avons besoin de soupirer après ça. De soupirer à travers des lectures qui soient vivifiantes, rafraîchissantes de la parole de Dieu. Je vais prier ce matin, et peut-être certains pourront s'approcher. Je sais que plusieurs parmi vous ont des difficultés spécifiquement à ouvrir ce livre qui s'appelle la parole de Dieu. À ouvrir ce livre qui donne la vie. À travers, je ne sais, bien sûr, je ne sais pas votre histoire. Mais la porte a été ouverte une fois pour toutes. Et votre nourriture se trouve dans la parole de Dieu. Dans la soumission à l'Esprit Saint. Mais pour trouver cette parole de vie, cette parole rafraîchissante qui va vous faire grandir. Pour cette Église, ce n'est pas quelques personnes qui montent sur l'estrade pour vous dire ce qu'ils ont reçu du Seigneur. C'est chacun d'entre vous qui êtes des témoins au quotidien. Vous avez besoin de cette parole vivante. Criez au Seigneur. J'ai besoin de cette parole, Seigneur. Tu me l'as dit, tu me l'as promis. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui varie, qui change, qui dit un jour, j'ai promis ça, l'autre jour, non, c'est toujours pareil, éternellement, sa promesse est pour chacun d'entre nous. Amen. Et ma prière, c'est que vous soyez centrés sur Jésus-Christ, lui seul, vous donnant le tout du tout accompli, cette richesse, cette porte qui est ouverte, c'est en lui, c'est par lui. Amen. Nous allons prier. Et Seigneur mon Dieu, j'ai prié avec mon cœur, avec ce que tu as mis dessus. Seigneur, devant moi, mes frères, mes sœurs, toutes ces personnes dans lesquelles, Seigneur, tu as mis la vie, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun, chacune, Seigneur, pour un renouvellement de ton esprit en elle, Seigneur. Un baptême à feu du Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur. Seigneur, un enthousiasme à lire ta parole, Seigneur, à te rencontrer chaque matin, chaque midi, chaque soir, là n'est pas la question, mais Seigneur, un moment, Seigneur, avec toi, un oasis dans la journée. Ah oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, que dans cette salle, Seigneur, personne ne retourne dehors sans avoir reçu ce désir, cet enthousiasme de la lecture de ta parole, d'une parole de vie qui apporte la vie, la bénédiction dans leur vie et dans la vie de ceux qui sont autour d'eux, Seigneur. Oui, Seigneur, répands ton feu ce matin, Seigneur. Répands, Seigneur, une onction nouvelle, Seigneur. Oui, Seigneur, une onction nouvelle, Seigneur, de te connaître.